Clé en main, saison 3, deuxième épisode. Alain Romestan, bonjour. Avec ce jour, Gérard Leray, historien, pour son livre « Les derniers jours de Jean Moulin à Chartres », paru aux éditions Ella. Jean Moulin, la personnalité emblématique de la Résistance qui fut préfet de Raye-et-Loire au début de la Seconde Guerre mondiale. Gérard Leray, bonjour.
Bonjour Alain Roumestan, merci de me recevoir.
Dans un article avant l'été, je vous avais qualifié d'historien rigoureux, professionnel, appuyant tous ses travaux de recherche historique sur une documentation exemplaire faite d'archives et de témoignages comparés. D'abord, Gérard Leray, qui êtes-vous ?
Alors, j'ai 57 ans, je suis enseignant en histoire-géographie, professeur agrégé depuis maintenant 35 ans. J'approche du bout de ma carrière. Je suis par ailleurs militant associatif écologiste. Mais l'essentiel de mon travail est effectivement l'enseignement et la recherche historique, principalement dans un répertoire bien particulier, ce que j'appelle la micro-histoire. C'est-à-dire que je m'intéresse à des sujets concernant mon lieu de vie, le département de Raye-et-Loire. J'étudie ces micro-événements, ce peuvent être des personnages, ce peuvent être des événements, et je m'efforce de les analyser en les contextualisant dans la grande histoire, dans l'histoire plus générale.
Pouvez-vous nous dire quelques mots de vos précédents ouvrages qui ont fait date et qui apportent toujours des éclairages particuliers sur des personnalités locales qui ont dépassé le cadre local pour interpeller l'histoire et la recherche historique ?
Alors, à ce jour, j'ai publié 6 ouvrages. Le premier, le plus remarquable, entre guillemets, ai-je envie de dire, s'intitule « La Tondue, 1944-1947 ». L'histoire de cette jeune femme tondue à la libération de Chartres, qui s'appelait Simone Touzeau, et qui fut immortalisée par le radio-reporter Robert Capa. Cet ouvrage est sorti en 2011, il a été coécrit avec un chartrain qui s'appelle Philippe Frétinier, et cet ouvrage qui m'a donné envie de prolonger l'aventure parce que c'est devenu une véritable passion. J'ai ensuite publié un ouvrage plutôt sur le style du roman qui concerne, alors le titre concerne une histoire de trahison dans la résistance en Eure-et-Loire. Cela fait référence à l'affaire Fermin-Sadorge. D'ailleurs, nous en reparlerons peut-être tout à l'heure, j'essaie actuellement de transformer la trame romanesque en trame historique. Cet ouvrage s'appelle « L'honneur perdu » de Juliette Rassegnier. J'ai ensuite publié successivement 2 biographies. La biographie d'un commissaire de police qui fut un grand ami du préfet Jean Moulin, il s'appelait Charles Porte. Cet ouvrage publié en 2015 s'intitule « Charles Porte, le flic de Jean Moulin ». Puis une seconde biographie qui rappellera des souvenirs très forts à la population du pays chartrain. Cela concerne un personnage qui s'appelait Paul Dessort, et le titre de cette biographie s'appelle « Monsieur Paul, l'escroc qui aimait les pauvres ». J'ai ensuite publié un petit fascicule concernant des femmes tondues à Nogent-le-Rotrou au mois d'août 1944. Ce travail est une analyse fondamentalement iconographique à partir d'une vingtaine de photographies prises par des amateurs. Et puis enfin, le 6e ouvrage, celui dont vous parlez et qui va constituer l'essentiel de notre échange.
En ce qui concerne la tondue, pouvez-vous nous raconter rapidement l'histoire de cette femme photographiée avec son enfant dans les bras devant la préfecture de Chartres par Robert Capa, cette photo qui a fait le tour du monde ?
C'est exact. Cette photographie était absolument remarquable, iconographiquement parlant. Je pourrais vous en parler pendant 4, 5, 10 heures, mais nous allons manquer de temps, donc je vais faire très court. C'est l'histoire d'une jeune femme née en 1921, elle s'appelait Simone Touzeau, qui, au début de la guerre, est tombée amoureuse d'un soldat allemand, Erich Goese. Cette histoire d'amour véritable est devenue cauchemardesque. Et après que Simone Touzeau ait assumé jusqu'au bout ses idées national-socialistes, elle a effectivement été tondue à la Libération le 16 août 1944. Et ce sera la première étape d'une déchéance personnelle qui aboutira à sa mort précoce en février 1966. Voilà ce que je peux dire pour l'essentiel. Mais il y a, à côté de cette histoire d'amour éminemment tragique, il y a une autre facette qui consiste pour moi, historien, à essayer de faire en sorte que le contact soit rétabli entre le bébé sur la photographie et sa moitié allemande, sa famille allemande qui cherche aujourd'hui à renouer le contact qui a été rompu dans les années 1970. Voilà comment, de manière très synthétique, je peux résumer les enjeux de cette photographie. Je pourrais ajouter simplement que l'auteur du cliché photographique, Robert Capa, a réalisé ce jour-là, le 16 août 1944, en début d'après-midi, ce qui est pour moi certainement, je vais le dire avec des guillemets, la plus belle photographie de guerre du monde.
En effet, si cette photo a fait le tour du monde, c'est que c'est un véritable chef-d'œuvre artistique et historique.
C'est exact, c'est exact. Certains y voient d'ailleurs un remake de La Vierge et l'Enfant. Le positionnement de la mère et de son bébé, la bulle dans laquelle elle se trouve pour échapper aux cris, aux crachats et aux insultes, rappelle des peintures de Raphaël de la Renaissance. Pour moi, c'est clair, c'est La Vierge à l'Enfant. J'avais 13 ans quand, pour la première fois, grâce à un professeur d'histoire-géographie de 3e, j'ai découvert cette photographie, et cette photographie, je vous l'avoue, Alain Romestan, ne me quitte plus, elle fait partie de mon existence. Outside the barracks, by the colonnettes, I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two, I'll wait for you the whole night through, for you, Lily Marley, for you, Lily Marley. Bugler tonight, don't play the call too loud, I want another evening with a chance. Then we will say goodbye and part. I'll always keep you in my heart with me, Lily Marley, with me, Lily Marley. Give me a rose to show how much you care, tied to the stem, a lock of golden hair. Surely tomorrow you'll feel blue, but then welcome a love that's new. For you, Lily Marley. For you, Lily Marley. When we are marching in the mud and cold, and when my pack seems more than I can hold, my love for you will use my might and walk again. My pack is light, it's you, Lily Marley. It's you, Lily Marley. My love for you will use my might and walk. It's you.
Venons-en au dernier jour de Jean Moulin à Chartres. Pour commencer, quelques mots sur le Jean Moulin personnalité historique. Pour des millions de Français pour lesquels la résistance de 1939 à 1945 a encore un sens. Pourquoi est-il une personnalité emblématique ?
Ah, Jean Moulin, c'est effectivement une icône de l'histoire contemporaine, de l'histoire du XXe siècle. Une icône, un exemple, un personnage brave, courageux, et qui, durant sa brève existence, il est mort relativement jeune. Il était né en 1899, il est décédé en 1943. C'est un personnage qui, sur la période de 1940 à 1943, les trois dernières années de sa vie, a incarné l'esprit de résistance. C'est d'abord un haut fonctionnaire de la Troisième République. C'est un personnage, nous en parlerons sans doute tout à l'heure, qui a une haute idée de sa fonction de préfet de la République. C'est quelqu'un qui a un code de l'honneur, c'est quelqu'un qui ne fait aucune concession sur sa mission, c'est-à-dire faire de la République le symbole même de l'existence. Et puis ce personnage a vu son destin basculer à l'automne 1940, quand il est révoqué de son poste de préfet. Il va s'écouler quelques mois avant que le personnage réfléchisse et prépare son entrée dans la résistance. À la fin de l'année 1941-42, il effectuera un premier voyage à Londres. Il rencontrera le général de Gaulle, qui lui confiera la mission, mission presque impossible au départ, de coordonner l'action des résistances intérieures. Il effectuera un peu plus tard un deuxième voyage, et il est celui qui, au mois de mai 1943, a concrétisé l'exploit, la fameuse réunion du Conseil national de la résistance, qui est l'instance symbolique qui incarne et incarnera la Renaissance républicaine. Mais cet événement historique très important, c'est-à-dire cette capacité à regrouper tous les mouvements et les réseaux de résistance, va mal finir. Le mois suivant, c'est-à-dire au mois de juin, il est arrêté dans la banlieue de Lyon par le tristement célèbre Klaus Barbie, chef du CPSD, autrement dit la Gestapo. Il est sauvagement martyrisé, torturé. Son corps est détruit, il est comateux. C'est un personnage entre la vie et la mort qui est ensuite emmené à Paris. Et puis, parce qu'on ne peut plus obtenir de lui le moindre renseignement, il n'a jamais parlé. Son corps est ensuite, presque mort, envoyé vers l'Allemagne dans un camp de concentration. Mais d'après ce que l'on croit savoir, il est finalement décédé dans la gare de Metz au début du mois de juillet 1943. C'est donc le symbole du résistant qui ne parle pas, qui ne trahit pas, celui qui incarne l'aspect, ce qu'il y a de plus remarquable dans la République et dans l'esprit de proclamation de la République.
Comment avez-vous travaillé sur l'action du préfet d'Eure-et-Loire pendant ces 5 derniers mois à Chartres ? Quel est en quelque sorte le logiciel employé par l'historien ?
En fait, tout vient de quelque chose d'assez particulier. J'ai été contacté en 2016 par un historien de la région de Bron. Il s'appelle Yves Bernard, qui a demandé à me rencontrer. Je l'ai rencontré chez lui, à Bron, et cet homme, Yves Bernard, m'a montré ses recherches. Il m'a surtout décrit le contexte de ses recherches. Il m'a expliqué pourquoi lui ne voulait plus continuer ses recherches sur quelque chose de très particulier qui concerne la persécution des Juifs en Eure-et-Loire pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est donc concrètement un historien eurélien qui m'a donné envie d'explorer ces mois de passer par Jean Moulin, ces derniers mois passés par Jean Moulin à la préfecture de Chartres, c'est-à-dire de l'été à l'automne 1940. Alors maintenant, les sources utilisées pour réaliser ce travail. Bien sûr, les travaux personnels d'Yves Bernard, c'est-à-dire au bas mot un mètre linéaire d'archives, Et puis, un énorme travail de bénédictin dans les archives nationales, à Carfitte-sur-Seine, et dans les archives départementales d'Eure-et-Loire. Deux sites, les archives nationales et les archives départementales d'Eure-et-Loire, ont été les endroits les plus grattés par moi.
Le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons, le temps des cerises sifflera bien mieux, le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises pendant le corail qu'on cueille en rêvant.
Premier épisode fort et fondateur, l'épisode de l'Athée près de Chartres et la fameuse nuit du 17 au 18 juin 1940, alors que de Gaulle faisait son appel du 18 juin.
Alors cet épisode est effectivement très intéressant à étudier. Nous sommes le 17 juin 1940, en pleine débâcle, la République est à l'agonie, le gouvernement de la République française est en fuite vers Bordeaux, le département de l'Eure-et-Loire est traversé par des dizaines de milliers de fuyards, de gens qui sont ce qu'on appelle sur la route de l'Exode. Jean Moulin, deux jours auparavant, a autorisé les personnels de l'État à quitter le département et à se replier de l'autre côté de la Loire, au sud de la Loire. C'est donc un homme seul, je le répète, c'est un homme seul, ou quasiment seul, qui se retrouve le 17 juin 1940, lorsque les premières troupes allemandes pénètrent dans la ville de Chartres. Il y a cette scène bien connue de Jean Moulin, assisté par un ancien conseiller municipal, par un adjoint de l'évêque, qui, sur le perron de la préfecture, accueille l'état-major allemand qui ne s'arrête pas, qui continue son chemin derrière l'armée française en déroute. Quelques heures plus tard, dans l'après-midi de ce même 17 juin, Jean Moulin est convoqué dans un immeuble réquisitionné de l'actuelle rue Gabriel Monory, pas très loin de l'Hôtel Dieu. Et à l'occasion de cette convocation, Jean Moulin est sommé de signer un document que Moulin estime infamant. Je m'explique. Les Allemands exigent du préfet Jean Moulin qu'il signe, qu'ils prennent acte du fait que des soldats de l'armée française, africains, ont assassiné, mutilé, martyrisé des populations civiles françaises. Jean Moulin, en l'absence de preuves, refuse de signer ce document. Pas question pour lui de porter le déshonneur improbable sur quelques régiments d'Africains de l'armée française. Il est bousculé, molesté, frappé. Et comme cela ne suffit pas, Jean Moulin est emmené manu militari dans un véhicule de l'armée allemande jusqu'à la Taie, amont de la commune de Saint-Georges-sur-Eure, où là, on lui montre effectivement un monceau de cadavres mutilés, démembrés. En fait, ces cadavres bien réels sont les victimes d'un bombardement allemand qui est intervenu 3 jours auparavant. Mais les Allemands veulent faire croire que ce sont des soldats français qui ont produit ce massacre de civils. Jean Moulin ne sait pas. Il est jeté et mis pendant plusieurs heures dans une cabane au milieu de ces cadavres malodorants, en putréfaction. Il ne cède toujours pas. On le ramène à Chartres dans un petit pavillon qui se trouve à l'entrée de l'Hôtel Dieu, de l'ancien hôpital de Chartres. On l'enferme au début de la nuit et Moulin, pensant que les maltraitances vont reprendre le lendemain matin, saisit un morceau de verre et décide de se suicider en se tailladant la gorge. L'arrivée d'un fell de gendarme le sauve finalement. Moulin est conduit à l'Hôtel Dieu où on met quelques pansements. C'est un chirurgien français, le docteur Foubert, qui lui applique les premiers pansements. Et Jean Moulin va rester pendant 5 jours, très fiévreux, alité, et au bout de 5 jours, il recommencera à son activité de préfet. Donc, je voudrais donc préciser que sa blessure n'est pas gravissime, mais elle est suffisamment importante pour l'obliger à être alité pendant une presque semaine.
Après cet épisode dramatique, on retrouve dans votre livre Jean Moulin dans ses fonctions jusqu'à sa révocation en novembre 1940 par le maréchal Pétain et son gouvernement engagé dans la collaboration avec l'Allemagne. Quelles actions le préfet Moulin entreprend-il à Chartres dans la débâcle française par rapport aux Chartrains et par rapport à son administration quasiment indigent.
Alors, effectivement, il y a plusieurs étapes à envisager dans cette période très troublée. Il y a d'abord la période d'avant l'armistice, où, parce que l'autorité administrative parisienne et le gouvernement sont incapables de donner des ordres ou des informations aux préfets dans les différents départements, Jean Moulin, face à cette indigente de consigne, va prendre sur lui d'organiser l'accueil des réfugiés, le ravitaillement des populations. Et c'est donc un homme qui remplace toute l'administration nationale et qui fait ce que normalement tout fonctionnaire aurait dû faire. Simplement, il est presque tout seul, entouré simplement de quelques volontaires, cependant que l'esprit général est à la fuite. Lui ne fuit pas, ça c'est la première chose. Et lorsque la défaite militaire est consommée, que l'armistice est signé, il faut bien considérer que le temps que le régime de Vichy se mette en place, à Vichy, que les administrations centrales commencent à reprendre contact avec les administrations déconcentrées dans les départements, au bas mot, Jean Moulin va rester, malgré sa blessure, va rester autonome, va devoir se débrouiller tout seul jusque pratiquement au 10 août 1940. C'est seulement à partir du 10 août 1940 que Jean Moulin va commencer à recevoir des ordres de Vichy qui s'ajoutent aux ordres quotidiens qui lui sont adressés de la part des troupes allemandes d'occupation et notamment du feldkommandant qui s'appelle Friedrich von Güldingen. Donc vous voyez, il y a plusieurs étapes, mais dans tous les cas de figure, jusqu'à la fin de l'été, Jean Moulin, avec très peu de personnes autour de lui, avec un petit cercle de fidèles, je pense en particulier à son chef de cabinet, Jean de Cotte, qui est tout aussi remarquable que Jean Moulin. Donc Jean Moulin parvient à faire plus que de se contenter du minimum, c'est-à-dire que son action au quotidien, sans doute 20 heures sur 24, va permettre, bon an mal an, aux différents services administratifs du département d'Eure-et-Loire de recommencer à fonctionner dans une ambiance particulièrement détestable de réquisition allemande.
Sur les actions au quotidien, présentez-nous quelques-unes de ces actions. Il y en a en effet dans votre livre des pages tout à fait passionnantes sur le quotidien d'un préfet face à la population qui est dans une situation dramatique.
Ces actions au quotidien du préfet Jean Moulin sont des actions d'abord de quête du ravitaillement, des réquisitions de pain, de farine, ce sont des réquisitions visant le carburant, ce sont aussi des consignes données pour les moissons. Il faut savoir que on est à l'été, que la moisson bat son plein, malgré la guerre. Jean Moulin demande aux autorités allemandes de lui donner des soldats français prisonniers afin de faire la moisson. C'est donc une œuvre extrêmement terre-à-terre pour permettre aux populations de recommencer à fonctionner. C'est aussi la préparation de la rentrée scolaire du début du mois de septembre. C'est, je vous l'ai dit, le pain. C'est aussi la difficile gestion des réquisitions. Les Allemands réquisitionnent tout et n'importe quoi. Et Jean Moulin se bat, presque au sens propre, comme au figuré, avec la salle de commandanture pour amoindrir l'impact des réquisitions allemandes.
Je vous ai demandé ces précisions parce que j'avais fait lire votre livre à un certain nombre de jeunes gens qui, naturellement, n'avaient pas une connaissance très forte de cette période de la débâcle française et des premiers mois de l'occupation allemande. Et ils ont été tous effarés de voir la situation dans laquelle se trouvait le département et la population de Chartres dans une véritable pagaille généralisée s'il n'y avait pas eu, justement, cette administration de Jean Moulin.
Exactement. J'ajoute que, par exemple, le maire de Chartres, le maire de Chartres a été l'un des premiers à s'enfuir. Tout le ravitaillement du gaz, de l'eau, tout cela avait été coupé. Et donc c'est Jean Moulin, en personne, qui s'occupe de ça. Alors que théoriquement, le représentant de l'État ne descend pas si bas dans la hiérarchie des activités. Donc on a un homme de terrain. Jean Moulin n'est pas dans sa tour d'ivoire, il est un homme de terrain. Il distribue des miches de pain aux populations indigentes restées sur place, cependant que les trois quarts de la population sont partis de l'autre côté de la Loire.
Alligator 427, aux ailes de Cachemire, safran, je grille ma dernière cigarette. Je vous attends. Sur cette autoroute hystérique qui nous conduit chez les mutants, j'ai troqué mon cœur contre une trique. Je vous attends. Je sais que vous avez la beauté destructive et le sourire vainqueur jusqu'au dernier soupir. Je sais que vos mâchoires distillent l'agonie. Moi je vous dis bravo et vive la mort. Alligator 427, à la queue de zinc et de sang, je me tape une petite reniflette. Je vous attends. Dans cet étrange carnaval, on a vendu le mot sapiens pour acheter des Néandertals. Je vous attends. Et les manufactures ont beau se recycler, il n'y aura jamais assez de morphine pour tout le monde. Surtout qu'à ce qu'on dit, vous aimez faire du rêve. Moi je me dis bravo et vive. Alligator 427, au long regard phosphorescent, je bouge mon nez, remonte mes chaussettes, je vous attends. Et je bloque mes lendemains, je sais que les bouches s'apprêtent autour des tables du festin, je vous attends. Et j'attends que se dressent vos prochains charriers. J'ai raté l'autre guerre pour la photographie. J'espère que vos make-up sont bien faisandés. je vous dis bravo et vive la bande. Alligator 420, c'est tout gros, venimeux et gluant. Je donne un coup de brosse à mon squelette. Je vous attends. L'idiot du village fait la queue et tend sa carte d'adhérent pour prendre place dans le grand feu. Je vous attends. J'entends siffler le vent au-dessus des calvaires et je vois les vampires sortir de leur cercueil pour venir saluer les anges nucléaires. Moi je vous dis bravo et vive la mort. Alligator 427, tout griffe d'or et de diamant. Je sais que la ciguë est prête, je vous attends. Je sais que dans votre alchimie, la tombe, ça vaut des travelers chèques et ça se défie comme alibi. Je vous attends. À l'ombre de vos centrales, je crache mon cancer. Je cherche un nouveau nom pour ma métamorphose. Je sais que mes enfants s'appelleront Mère de Terre. Moi, je vous dis bravo et vive l'amour. Alligator 427, au cerveau de jaspe et d'argent, il est temps de sonner la fête. Je vous adore. Vous avez le goût du grand art et sur mon compteur électrique, j'ai le portrait du prince Ringard. Je vous adore. Je sais que désormais vivre est un calembour, la mort est devenue un état permanent. Le monde est au fantôme, oh yeah, et au voodoo. Moi je vous dis bravo et vive la mort.
Alors venons-en maintenant à l'action de Jean Moulin face aux injonctions antisémites du gouvernement français. Ce qui fait de votre livre quelque chose de tout à fait original, parce que c'est la première fois que l'on a une étude aussi poussée par rapport à des décisions prises par le gouvernement de Vichy et donc leur application dans une ville comme la ville de Chartres.
Effectivement, Alain Roubastan, lorsque Yves Bernard, cet historien de Brou, m'a indiqué ses axes de recherche, je suis tombé rapidement sur quelque chose de très épineux. Je m'explique. Les autorités allemandes ont demandé à l'administration préfectorale, donc à Jean Moulin, et également aux 48 autres préfets des départements de la zone occupée, de dresser un recensement, de fabriquer un recensement des populations juives résidentes en Eure-et-Loire, populations juives nationales ou étrangères. Alors vous imaginez quand cet ordre est donné, ce que ça peut donner dans une ambiance de 2020. Mon livre est une entreprise visant à combattre ce que j'appelle l'anachronisme. L'anachronisme, c'est un cancer, c'est une plaie. Essayons par-dessus tout, pour échapper à l'anachronisme, à nous remettre dans le contexte de l'époque. Nous, en 2020, nous savons ce que les Allemands ont fait de ces listes, de ce recensement de 1940, et il y en aura d'autres d'ailleurs en 41, 42, 43, etc. Mais en 1940, on ne sait pas, même si l'ambiance est à l'antisémitisme roi, on ne sait pas ce que les Allemands vont faire de ces listes. Or, effectivement, une ordonnance allemande du 27 septembre 1940 ordonne au préfet l'établissement de listes de juifs. Et Jean Moulin et son administration préfectorale vont faire le travail. Alors pas Jean Moulin tout seul, jamais Jean Moulin en personne, mais en tout cas les sous-préfets, le commissaire des renseignements généraux vont fabriquer ces listes de juifs et établir un bilan final de 120 noms, et ces 120 noms seront donnés à la faible commandanture dans une lettre qui est d'ailleurs publiée dans mon livre, à la date du 9 novembre 1940, c'est-à-dire une semaine avant le départ effectif de Jean Moulin de la préfecture de Chartres. Donc, je précise et je me répète pour ne pas cultiver l'ambiguïté. Mon travail n'est pas de juger Jean Moulin. Mon travail est de me situer dans le contexte de 1940. Jean Moulin est un haut fonctionnaire du régime de Vichy. Il est tenu, en tant que haut fonctionnaire, de respecter les différents articles de la Convention d'armistice. Et l'article numéro 3 de la Convention d'armistice dit clairement que les préfets doivent obéir aux ordres de l'administration d'occupation allemande. Ce qu'a fait Jean Moulin. À ce moment-là, je le dis très solennellement, Jean Moulin n'est pas encore un résistant, il est un haut fonctionnaire, il aurait pu bien sûr démissionner, mais ce n'est pas dans sa nature. Jean Moulin n'est pas, il l'a prouvé pendant la débâcle, il ne fait pas partie de ces gens qui s'enfuient. Jean Moulin, il a une mission sacrée, c'est de protéger les populations. À cette époque-là, et tous les autres hauts fonctionnaires de Vichy considèrent l'ordre allemand donné de recenser les juifs n'est absolument pas une atteinte à l'honneur. Voilà ce que je voulais dire.
Il y avait aussi des recensements. D'autres parties de la population française, par exemple, ont recensé les réfugiés espagnols.
Mais exactement. La mission d'un préfet, hier et aujourd'hui, c'est d'établir des listes de personnes ou de catégories de personnes particulières. À l'époque, sous la Troisième République, puis pendant l'occupation, sous le régime de Vichy, on utilisait le terme d'indésirable. Et effectivement, avant même la guerre, Moulin et ses collègues des différents départements avaient l'habitude de dresser des listes de réfugiés espagnols, de militants communistes, surtout à une époque où le Parti communiste était considéré comme une force extrémiste, et n'oublions pas que le Parti communiste soutenait le pacte germano-soviétique. Donc Moulin a ordonné à son administration, à ses policiers, à son commissaire des renseignements généraux, effectivement, de dresser des listes de gens considérés comme indésirables ou soupçonnables d'atteinte éventuelle au fonctionnement normal de la République. Donc faire une liste pour un préfet, c'est une normalité administrative totale. Ce n'est pas quelque chose d'insupportable.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Jean Moulin, dans un certain nombre d'études, a été présenté d'une manière non historique. On l'a accusé de beaucoup de choses. On l'a fait passer pour crypto-communiste, pour quelqu'un qui était avant tout préoccupé par sa carrière. Bref, on a eu toute une série de critiques qui ont pu être faites. Vous n'avez pas peur que ce que vous avez trouvé dans vos recherches soit utilisé par un certain nombre de gens qui ont envie de démolir celui qui est aux yeux de beaucoup de Français un emblème de la résistance?
Cette question m'a obsédé dès le départ. J'ai une profonde admiration pour l'homme, pour Jean Moulin. Et dans mon ouvrage, je ne crois pas avoir abîmé la réputation du personnage. Au contraire, j'explique, je montre pourquoi et comment il agit. Et je peux vous le dire solennellement, là, maintenant, tout de suite, Jean Moulin n'a pas porté atteinte à son honneur, à l'honneur des valeurs républicaines. Il a fait son travail. Je vais employer une expression un petit peu particulière, il a obéi aux ordres, parce qu'il est fonctionnaire. Tout fonctionnaire se doit d'obéir aux ordres. Et je fais un aparté. Il y a un ami, un instituteur qui est un retraité, qui a lu mon livre et qui m'a envoyé il y a quelques semaines une critique de mon ouvrage en me disant « Tu sais, Gérard, tu parles de listes établies par l'administration préfectorale sous l'autorité de Jean Moulin. Mais moi-même, instituteur, dans les années 1960-70, j'ai dressé des listes d'élèves d'origine étrangère ou étrangers à la demande de l'inspection académique. Et je l'ai fait. Voilà, je l'ai fait. C'est ça la mission d'un fonctionnaire. Je suis intimement persuadé qu'il n'y a pas d'atteinte à l'honneur. Pour en revenir au fondement de votre question, bien évidemment que des gens mal intentionnés pourraient se servir de mon travail scientifique pour porter atteinte à la réputation de Jean Moulin. Ces gens-là sont des imbéciles, je le dis par avance. Moi, je ne porte pas atteinte à l'honneur de Jean Moulin. Je dis simplement, je révèle simplement ce qu'il a fait, ce qui a été occulté pendant au moins 2 décennies. Des gens ont cherché effectivement à cacher cela. Je pense que la mission de l'historien, c'est de révéler, dans un sens équilibré, scientifique, dans une quête absolue de la recherche de la vérité, c'est de révéler ce qui s'est réellement passé. Donc, je le dis, Jean Moulin, pour moi, est un grand monsieur, il a fait son travail, point, c'est tout.
De toutes les manières, votre livre est paru depuis quelques mois, il n'a jamais jusqu'à présent été récupéré par qui que ce soit, puisqu'on n'a pas de nouvelles pièces au dossier anti-Jean Moulin.
Effectivement, j'ajoute même, cher Alain, que il est un personnage qui a été très proche de Jean Moulin, qui s'appelle Daniel Cordier, qui fut son secrétaire pendant la guerre, qui a eu 100 ans le 10 août dernier. Alain Cordier, depuis maintenant 21 ans, est parfaitement au courant de ce recensement des Juifs, de cette lettre versée à la Felle Commandanture par l'administration de Jean Moulin. Mais Cordier, personnage charmant, adorable, truculent et remarquable, Daniel Cordier, même s'il est effectivement gêné qu'on en parle si tardivement, l'information aurait pu être divulguée bien avant, Daniel Cordier a cette réponse, mais Jean Moulin a obéi aux ordres, et c'est tout.
I come from down in the valley where mister when you're young they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary we met in high school when she was just 17. We drive out of this valley down to where we go down to the river, and into the river we dive. Oh, down to the river.
Vous dites que l'historien doit le respect aux morts, mais la vérité aux vivants. Alors, quelles autres vérités allez-vous traiter encore dans les mois qui viennent ? En un mot, sur quoi travaillez-vous actuellement ?
Alors, je suis boulimique en matière historique. C'est une qualité, mais c'est peut-être un défaut. Il faut que j'apprenne à me canaliser. En fait, je travaille dans plusieurs directions. Une première direction, j'en parlais tout à l'heure, je suis en train, mais c'est un travail que je mène depuis une dizaine d'années, je suis en train de reconstituer l'histoire extrêmement détaillée, encore une fois, hein, comme pour Moulin ou mes autres livres, d'une présomption de trahison dans la résistance en Eure-et-Loire. L'affaire Sadorge-Firmine. Ça, c'est la première piste. Il y a une deuxième piste qui me tient à cœur. Je travaille sur un clerc, sur un homme d'église, en Eure-et-Loire. Alors, c'est un type que vous connaissez peut-être, Alain. Il s'appelait Marcel Bergognier. C'est un personnage qui est décédé en 1974. Et Marcel Bergognier, j'ai été baptisé par son frère. Hein, et Marcel Bergognier fut, à la fin des années 30 et pendant la guerre, le directeur de la publication, le rédacteur en chef de l'hebdomadaire de l'évêché qui s'appelait La Vérité d'Eure-et-Loire. Et ce Marcel Bergognier a, tout au long de la guerre, publié des éditoriaux un peu compliqués. En clair, il était fondamentalement maréchaliste, il était antisémite, il était anti-franc-maçon, il était anti-république. Et ce personnage, vous l'imaginez, a eu des ennuis à la Libération, heureusement pour lui, il est passé à travers les mailles du filet. Je suis en train, au travers de la reconstitution de ces éditoriaux, dans La Vérité d'Eure-et-Loir, de faire une analyse complète de la philosophie de la pensée de ce personnage. Voilà. Donc ça, c'est un travail au long cours qui va me prendre sans doute plusieurs dizaines de mois. Et puis, j'ai une autre piste. Mais là, c'est la troisième piste de travaux. Je suis en train pour aider les historiens qui voudraient se lancer dans des travaux de micro-histoire, je suis en train de décrire la façon dont je m'y suis pris pour découvrir l'histoire de Simone Touzeau, la tenue de Chartres. En gros, ce travail, c'est l'histoire de la tenue de Chartres. Voilà les trois pistes principales.
En quelque sorte donc un logiciel d'historien, Gérard Leray, pour les historiens futurs, qui se pencheraient sur cette micro-histoire.
C'est exactement cela. C'est de faire en sorte que l'histoire soit considérée comme la plus noble des disciplines, avec un objectif, c'est la quête de la vérité, sachant que la vérité est souvent inaccessible. Mais il faut, quoi qu'il arrive, il faut toujours gratter pour essayer d'approcher la vérité. Ne jamais se lancer dans des hypothèses hasardeuses. Toujours aller vers la quête de la vérité. C'est ce qui m'anime. C'est le sens de mon action d'historien.
Nous allons attendre avec impatience les nouvelles sorties de vos recherches historiques. Merci Gérard Leray pour cet entretien sans concession. Entretien avec un vrai professionnel de l'histoire. Merci aussi pour votre playlist. Lily Marlène, Le Temps des Cerises, Hubert Félix Thiéfaine, La Moldo de Smetana, Bob Dylan et Bruce Springsteen. C'était Clé en main sur Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes qui nous rapprochent. Prenez soin de vous et des autres et rendez-vous pour le troisième épisode de l'émission à venir.